monde connaît en ce moment de nombreux combats. Sur les champs de bataille, sur les réseaux sociaux, sur la liberté d'expression, le droit des idées, la liberté religieuse et bien d'autres encore qui touchent à notre individu. Il y en a un cependant qui est revenu sur le devant de la scène cette année avec la décision de la Cour suprême des États-Unis et les propositions de résolution de l'Union européenne sur le droit de vie et de mort d'un enfant dans le ventre de sa mère. Au-delà des conflits médiatiques, des lois et du trauma indéniable vécu par les mères, une question essentielle semble ne pas être abordée. Qu'advient-il à l'enfant non né par la suite ? Nous sommes allés enquêter auprès de ceux qui pouvaient apporter une réponse à cette question.
Bonjour Thierry.
Bonjour.
Très heureux de vous recevoir.
Merci. Alors, je vais me présenter. Je suis marié avec Myriam. Depuis de nombreuses années, une trentaine d'années, nous sommes au service de l'Église catholique. Et j'aurais envie de dire d'abord comment nous nous sommes convertis, parce que c'est lié directement au sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, quand j'ai connu Myriam, on n'était pas croyants ni l'un ni l'autre, on était loin de Dieu même, mais il y avait quand même une quête en nous, et un jour Myriam est tombée enceinte, on n'était même pas encore mariés à l'époque, hein. Et voilà qu'à 5 mois et demi de grossesse, elle fut une infection urinaire, donc je l'amène à l'hôpital, et le gynécologue qui nous reçoit dit « Oh là là, Myriam, tu vas accoucher normalement, mais l'enfant sera non viable parce qu'on n'a pas le temps de l'amener dans un centre néonatal. Et donc, il va naître, ce bébé, tu vas accoucher normalement et on ne pourra pas le sauver. » Et donc, nous voilà dans la salle d'accouchement. Et c'est là où tout s'est passé au niveau de la conversion. C'est-à-dire que Myriam a accouché avec les douleurs de l'enfantement, vraiment, même si c'était un plus petit bébé, elle a eu les vraies douleurs de l'enfantement. Et avant la naissance, on s'était quand même posé la question du baptême de cet enfant. Et donc, on avait appelé la famille en disant « Voilà, Myriam va accoucher, mais le bébé sera non viable. » Et à chaque fois qu'on appelait mes parents ou ses parents, tout le monde était en larmes apprenant la nouvelle. Et quand on a appelé donc les parents de Myriam, il y avait Pierre, son frère, qui est prêtre, et qui m'a dit « Mais Thierry, en tant que baptisé, tu as le droit de le baptiser. » Dans l'urgence, tu as le droit de le baptiser. Ça m'a énervé. Je l'ai un petit peu renvoyé sur les roses. J'ai dit, Pierre, attends, on est en train de perdre notre enfant. Tu nous parles de baptême. Qu'est-ce que tu fais là ? On est dans la souffrance et toi, tu nous parles qu'il faut baptiser l'enfant. Et néanmoins, il m'a dit, mais si tu ne le fais pas pour lui, fais-le pour la famille. Fais-le pour nous tous. Et c'est comme s'il avait ouvert une porte dans mon cœur. Je me suis dit, après tout, ça mange pas de pain, j'ai envie de dire. On ne prend pas de risque à baptiser un enfant, au contraire, on peut faire que plaisir à la famille. Et donc, nous voilà dans cette salle d'accouchement, et j'avais demandé au gynécologue là, qui s'occupait de nous si on pouvait baptiser l'enfant. Il était croyant, il a dit, bien sûr, on va vous mettre un petit peu d'eau là, dans une petite vasque, et vous pourrez baptiser l'enfant après la naissance. Donc voilà notre petit bébé qui naît, on avait décidé de l'appeler Simon. Et donc, me voilà donc avec l'assistante du gynécologue. Elle avait le bébé dans ses bras et je prends de l'eau. J'avais demandé à Pierre comment il fallait faire et je verse de l'eau doucement sur le front du tout petit bébé qui pleurait, hein, qui était bien, bien vivant. Et je dis, je te baptise Simon au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et à cette seconde-là, j'ai vu, alors avec les yeux de mon cœur, c'est toujours compliqué à expliquer ça, j'ai vu une femme juste au-dessus de moi qui était là. Qui ne touchait pas terre, hein, qui était juste au-dessus, et qui me regardait avec une infinie bonté, un infini amour. Et je me demandais, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et parallèlement, il y avait l'enfant qui était là, et donc Myriam m'a demandé à prendre Simon sur son cœur, elle a pris Simon sur son cœur, et puis à un moment donné, l'enfant a commencé à tousser, et délicatement, l'infirmière est sortie avec Simon de la salle d'accouchement, et on savait qu'il était en train de partir au ciel, en fait. Et je me suis déplacé pour aller vers Myriam, vers la salle d'accouchement, vers le lit en fait. Et cette femme qui était là, avec une immense amour, qui me regardait et qui m'inondait d'amour et de paix, une paix incroyable. Finalement, on déplace le lit, les grandes portes s'ouvrent. Cette femme qui me suivait toujours dans mes déplacements, et au moment où les portes s'ouvrent, je la vois avec mon enfant dans ses bras. C'est-à-dire que l'enfant que je venais de voir avec l'infirmière quelques minutes avant, je vois mon enfant dans les bras de cette femme. Et tout de suite, j'ai pensé que c'était la Vierge Marie, bien sûr. Hein. Et elle me parle, alors c'est toujours pareil, elle me parle, je ne l'ai pas entendu dans mes oreilles, mais je l'ai entendu dans mon cœur, mais il y a des fois des visions du cœur qui sont aussi fortes, voire beaucoup plus fortes que des vraies visions. Et j'entends, ne t'inquiète pas, il est avec moi, je m'en occupe, tu le retrouveras. Et à ce moment-là, on s'avance vers la chambre et j'avais toujours cette présence féminine, donc mariale hein, maintenant, je le sais, qui était là. Et c'était dans la nuit et on s'est endormi dans la paix, étrangement dans la paix. Et quand on s'est réveillé le matin, tous les deux avec Myriam, on était convertis. On n'avait qu'une seule envie, c'est d'aller à la messe, c'est d'aller se confesser et c'est de sortir de là. Et on était tous les deux comme revêtus d'une couverture de paix, de joie et de paix, malgré le fait d'avoir perdu notre enfant.
Voilà, je vais vous demander de vous présenter. Et quel est votre appel propre venant de Dieu ?
Alors, moi, je suis Sylvia. Je suis mère de 4 enfants dont je m'occupe à plein temps. Et je pense que l'appel de Dieu sur ma vie personnelle et même, je pense, sur la vie de tout à chacun, c'est d'aimer Dieu, puisque c'est lui qui nous a créés. Et d'aimer notre prochain, parce que pour moi, on est une famille sur cette terre et on est censé prendre les soins les uns des autres. Voilà, je pense que c'est ça.
Que deviennent les enfants non-nés ?
À partir du moment où on avorte, comme moi ça m'est arrivé 2 fois, si on ne les a pas reconnus par le baptême, je pense que, comme un prêtre m'avait expliqué, c'est comme s'ils sont enfermés dans un placard, dans le noir, et qu'ils appellent à l'aide. Et donc, si on les reconnaît pas, ben ils peuvent attendre là pendant des années, à l'aide, maman, papa, je suis là, mais vous m'entendez pas, vous me voyez pas. Et le jour où on prend conscience de ça, où la Vierge et Jésus nous rappellent, comme moi ça m'est arrivé, la Vierge m'a fait comprendre que ce que j'avais commis, c'était des meurtres, mais que je pouvais réparer à travers les baptêmes. Donc, on a fait un travail avec Jean-Philippe et un prêtre qui est merveilleux. Et donc, à partir du moment où ils ont été baptisés, eh bien, il s'est passé quelque chose de merveilleux, c'est que ces enfants, eh bien, ils ont eu une vie, puisque à partir du moment où il y a eu une célébration, on les a baptisés, ils ont à la fois été et baptisés, donc reconnus, et ils ont reçu aussi la première communion à travers nous, enfin à travers moi. Et donc, c'est un travail magnifique, parce qu'en fait, les enfants les reconnaissent, on leur donne un prénom, et après, il y a une vie qui s'installe, ils font partie de la famille, ils font partie de notre vie, on peut leur parler, on leur demande de l'aide, et même on leur demande de prendre soin de leurs frères et sœurs. C'est ce que j'ai fait, moi, avec eux. J'ai baptisé non seulement les miens, mais aussi les enfants avortés de ma sœur et ceux d'une amie. Et ça a été vraiment... Et même j'ai un de nos enfants, une fausse couche que j'avais faite, et bien cet enfant s'est même révélé à ma petite dernière qui a vu... une présence qui était là et le prêtre en a conclu que c'était un enfant qui faisait partie
de la fratrie.
Et comme on allait baptiser les enfants de ma sœur et de cette amie, il fallait aussi que cette petite, sans qu'on le sache, qui était présente, il fallait qu'on s'occupe d'elle. Donc elle s'est manifestée à ma dernière qui était normalement censée être sa sœur jumelle. Voilà.
Bonjour Brigitte.
Bonjour Didier. Bon voilà j'ai 65 ans, je suis infirmière retraitée. Je soigne en fait un moine ermite qui s'occupe des enfants non-nés. Donc je me suis rapprochée de lui, surtout à cause de ça. Oui,
Que deviennent ces fameux enfants non-nés ?
Disons qu'avant ma conversion, moi je pensais qu'ils n'existaient pas. Donc j'ai des enfants non-nés, j'ai 3 enfants non-nés. Hein. Et avant ma conversion, j'ai pratiqué une IVG. Et donc quand j'ai vu tout le désordre, enfin toutes les blessures, il y a un avant... et un après cette date d'avortement. Ma vie a complètement changé. Et j'ai vu, même n'étant pas convertie, cette blessure dans l'ordre naturel des choses que ça m'a infligée, hein, complètement. Donc d'où ma recherche du Seigneur, de donner un sens à ma vie. Après, j'ai fait des retraites avec ce moine ermite là, qui s'occupait des enfants non-nés. Et progressivement, je me suis occupée de mes enfants. Enfin, on peut s'occuper rien n'est perdu, en fait. Hein. On peut s'occuper de nos enfants non-nés. Après ce geste irrémédiable, hein, quand même, on ne pourra jamais revenir en arrière. Et ça, c'est une grande... C'est quand même un drame personnel, ça, c'est sûr. parce que j'ai pas eu d'autres enfants vivants après. Mais quand j'ai reçu les prénoms de mes enfants, après les avoir demandés, je me suis dit qu'ils étaient vraiment vivants, même si je les ai jamais vus. Hein, j'ai jamais eu de vision de mes enfants, des enfants de ma chair quand même. Hein, c'est... Et j'ai l'impression de suppléer, de m'occuper enfin d'eux, quoi, de... que rien n'est perdu.
Voilà. Donc, une fois converti, entre guillemets, on n'avait plus qu'un seul désir, c'était de dire à la terre entière. Moi, j'ai dit, mais on ne me l'avait jamais dit au catéchisme. La vie éternelle existe. Je me suis dit, c'est pas possible. Je vais passer le reste de ma vie à aller dire au monde entier la vie éternelle existe. C'est-à-dire, après la vie, il y a la vie. J'avais vu mon enfant vivant dans les bras de la Vierge Marie. Et non seulement je l'avais vu vivant, mais je savais que je le retrouverais. Et c'était un message d'espoir fabuleux. Et j'avais le sentiment que je ne l'avais pas intégré ou sinon entendu au catéchisme quand j'étais enfant ou même à l'église. C'est absolument incroyable. Alors que c'est le centre du message évangélique, c'est la résurrection du Christ et c'est la vie éternelle, le cadeau de la vie éternelle. Et donc nous, on a eu une vie quand même assez douloureuse un petit peu au niveau des enfants, puisqu'on en a perdu 5 en tout. On a perdu 5 enfants au ciel. Mais ces 5 enfants, on a toujours fait le baptême, ce qu'on appelle aussi le baptême de désir. On les a toujours nommés, Pierre, Paul, enfin voilà, on a donné des prénoms à chacun de nos 5 enfants. Et au lieu de vivre ça comme un drame, heureusement, grâce à Dieu, on a eu des enfants sur Terre, on en a 3, au lieu de vivre ça comme un drame qui nous écrase et qui nous coupe de la vie, on l'a vécu comme un cadeau parce qu'on savait qu'on allait retrouver nos enfants. Donc que deviennent nos enfants non-nés, ou que deviennent nos enfants voilà, qui meurent prématurément, qui sont partis trop vite, ils sont dans le ciel et ils nous attendent et on les retrouvera. Et je pourrais raconter beaucoup de témoignages suite à notre ministère par rapport à ça. Tout le reste de notre vie, on a cessé de prêcher sur la vie éternelle et sur la vie de ces enfants qui sont dans le ciel et qui attendent notre reconnaissance et nos prières.
Sur cette question-là, nous allons aborder maintenant le point de vue de l'Église que va nous présenter le Père Patrick.
Ah, après leur mort, les enfants non-nés, les enfants qui ont été conçus par Dieu et puis qui n'ont pas connu la naissance, qui... c'est pour ça que vous êtes venu nous interroger. Chacun de ses enfants a sa part dans la famille, chacun de ses enfants a sa part dans la création, chacun de ses enfants a sa part dans la communauté humaine elle-même, chacun de ses enfants a également sa part dans la grâce qu'il doit recevoir, la grâce chrétienne qu'il doit recevoir, la grâce surnaturelle. Chacun doit avoir sa part dans sa sainteté, la sainteté qui doit se déployer jusqu'à l'accomplissement d'une plénitude reçue. Il reste dans le pèlerinage de la terre, il reste dans le temps. En latin, chez nous, on dit « il reste in via », ils sont encore sur le chemin. Ils ont une vie, si je pouvais la résumer en quelques mots, ils ont une vie de lumière, d'innocence et de liberté et de lucidité, et aussi totale, mais aussi une magnanimité, ils voient tout en grand.
Si l'Église semble confirmer aujourd'hui les témoignages de plus en plus nombreux sur la continuité de la vie des non-nés après leur décès, une nouvelle question se pose. Pouvons-nous faire quelque chose pour eux ?
Que pouvons-nous faire pour les enfants non-nés ?
Eh bien déjà, il faut les faire, quand ils sont baptisés, il faut les faire partie de notre vie. Il faut les appeler. Enfin, moi, je leur parle, je leur demande de l'aide, de protéger. J'ai vécu une chose magnifique. Je montais dans le nord. Ma dernière était malade, celle qui avait vu cette petite être. Et donc, donc j'ai prié la Vierge qu'elle s'occupe de ma fille qui était malade. Et donc, quand je l'ai appelée, et elle m'a dit, mais parce qu'on lui avait donné le prénom de Lucie à cet enfant qui a été baptisé, et elle m'a dit, mais maman, il y a Lucie qui est avec moi. Et là, j'ai été vachement rassurée. Je me suis dit, mais c'est génial que cet enfant soit là avec nous, qu'elle soit là présente. C'était vraiment le signe de réconfort pour moi que cette petite prenne sa petite sœur. Et donc il faut leur confier faut leur faire partie de notre vie, il faut leur demander de prendre soin de leurs frères et sœurs, faut quand on vit les repas, il faut montrer qu'ils sont là, enfin il faut être présent et il faut leur faire comprendre que on sait qu'ils sont là et il faut qu'ils vivent notre vie à nous, il faut qu'ils vivent une vie de famille normale avec nous.
Que pouvons-nous faire pour les enfants non-nés?
Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants non-nés? Donc nous ne cessons de prêcher dans le monde entier et bien sûr on témoigne. Et donc combien d'hommes et de femmes viennent nous voir en disant « moi j'ai fait une fausse couche, moi j'ai fait un avortement, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela » comment réparer entre guillemets, comment sortir de cette situation? Parce qu'effectivement, tant qu'on n'a pas nommé l'enfant, tant qu'on n'a pas fait une démarche de pardon, de réconciliation, il reste une blessure. Moi, j'ai vu des femmes, 30 ans après ou 40 ans après, qui disaient « je ne comprends pas ce qui se passe, à cette date anniversaire, tous les ans, j'ai fait une dépression, ou je n'arrive pas à dormir ». Et en fait, quand on remontait un petit peu dans la Genèse, c'était la date, par exemple, de l'avortement. Alors qu'elles avaient complètement occulté ça, finalement, en restant dans le déni, en disant il fallait le faire, il y avait de bonnes raisons, il y a toujours de bonnes raisons, que ce soit de la part de la maman ou du papa, il y a toujours de bonnes raisons, mais en fait, au bout du compte, il y a aussi de grosses blessures. Et derrière ces blessures, il y a une grande culpabilité. Donc, la réponse, et Jean-Paul II en parle beaucoup, c'est d'abord la confession. C'est-à-dire d'abord aller voir le prêtre et de dire « j'ai avorté mon enfant, par exemple ». Et une femme qui a fait une fausse couche, il n'y a pas forcément la confession parce qu'elle a fait une fausse couche, mais de dire je regrette parce que j'aurais tellement voulu que mon enfant vive, remettre cette blessure là. Et dans le sacrement de la confession, c'est très important. Une fois qu'on a fait la confession, une chose qui est, nous on développe ce qu'on appelle le baptême de désir qui est proposé par l'Église, c'est de nommer l'enfant, lui donner un prénom. Alors, si possible, le père et la mère, même quelquefois en famille. On peut dire, parce qu'il y a des frères et des sœurs, cet enfant, la fausse couche qui a eu lieu, ou l'enfant qui a été avorté, on va lui donner un prénom, on va le reconnaître. C'est-à-dire, on ne va pas tout de suite l'envoyer dans les bras de Dieu. Jésus dirait, mais non, dis d'abord à ton enfant que tu l'aimes. Dis d'abord à ton enfant que tu l'aimes. C'est-à-dire, on va d'abord dire à notre enfant qu'on l'aime, qu'on aurait voulu qu'il vive avec nous. Quelle que soit la situation, que ce soit un enfant avorté ou un enfant issu d'une fausse couche, ou même les filles, etc. Tout est lié. Il y a toujours la vie. C'est-à-dire, cette vie, on aurait voulu qu'elle soit avec nous. Donc, on lui dit qu'on l'aime. On le reconnaît. On lui donne un prénom. Et on peut faire une célébration, une messe, pour faire ce qu'on appelle un baptême de désir, et lui donner un prénom et le reconnaître. Et alors, ce qui est bien, nous, ce qu'on encourage les gens à faire, c'est de le noter. Dire à cette date, j'ai donné le baptême de désir à mon enfant, il s'appelle Pierre, Jacques, Emmanuel, on peut donner le prénom qu'on veut, qu'on reçoit dans son cœur, quelquefois on le reçoit dans la prière, quelquefois c'est le Seigneur qui nous le donne, ou quelquefois c'est une évidence, je l'aurais appelé de telle façon. Et chaque année, par exemple, on peut célébrer d'une certaine façon son anniversaire en disant, on t'aime, on te reconnaît, on a marqué ton nom dans notre coin prière, dans la famille, tu fais partie de la famille. Et ça, ça change tout.
Concrètement, quand les personnes ont reçu le prénom de leur enfant non-né, que peuvent-ils faire d'autre, que ce soit le papa, la maman, ou d'autres membres de la famille, ou d'autres proches?
Lorsque vous avez un enfant, vous le portez, vous lui donnez un nom, vous l'inscrivez à l'intérieur de la communauté humaine, avec son prénom, c'est vrai. Mais après, il faut continuer à le protéger, il faut continuer à le faire profiter du soleil, des fruits de la terre. Bon, il faut l'éduquer, il faut l'accompagner dans sa formation, que ce soit pour les enfants d'une famille ou pour les enfants non-nés, c'est pareil. Donc quelque part, effectivement, les enfants ne demandent qu'une seule chose. Les enfants non-nés, hein. Les enfants non-nés ont effectivement trouvent comme comme une source, surtout au début, hein, une source de vie nouvelle, chaque moment d'affection, d'amour, de parole qui leur est adressé.
Donc il faut leur faire comprendre qu'ils sont là et qu'ils font partie de notre vie en fait. Il faut leur parler tout le temps. J'ai entendu des histoires magnifiques où les gens, dès qu'ils ont été face à ce problème d'avortement et qu'ils ont fait comme moi, baptiser leur enfant et qui ont vécu ces vies, et bien ils ont eu des révélations par rapport à ces enfants magnifiques. Je me rappelle même un jour où on était allé à la messe un matin avec la dernière Amy, et il y avait le prêtre, on savait rien nous. Hein. On va à la messe et il nous dit, en ce jour de la Sainte Lucie, c'était la dernière qui s'était manifestée à Amy et qui était baptisée. Et alors là, on a pris un coup, je me suis dit, waouh, même là, elle est présente en pleine messe. Donc elle était là à la messe. Elle était avec nous quand même. Et ça, il n'y avait que le ciel et nous qui pouvons savoir que... Et là, ça marque quand même, ça touche notre cœur. Et moi, chaque fois que j'ai besoin, ben, je leur demande de visiter, de protéger ses frères et sœurs. Quand je ne suis pas là, par exemple, ici, je suis ici aujourd'hui, eux, ils sont loin de moi, et ben, je les envoie pour qu'ils veillent sur eux, qu'ils les protègent, qu'ils les ramènent au ciel. Par rapport, j'ai un garçon qui s'éloigne un peu de Dieu, ben, je leur demande de le visiter, de toucher son cœur, de lui montrer l'amour du Seigneur, et de lui faire comprendre que, ben voilà, il faut changer de comportement. Moi je fais ça. C'est magnifique. C'est magnifique, ouais.
Que pouvons-nous faire pour les enfants non-nés ?
Ben si on sait qu'on a fait des IVG, des fausses couches, on peut les récupérer, enfin pas les réadopter, mais les retrouver, parce qu'ils demandent que ça. Qui refasse partie de notre famille. Bon, moi, je suis seule, célibataire, hein, mais je formais quand même une famille avec mes trois enfants. Et les alimenter spirituellement, en les réintégrant à l'église militante par une messe. Enfin, parce qu'ils n'ont pas été baptisés, le problème, c'est ça. Hein, c'est que, bon, auprès de ce moine que je soigne, hein, qui s'occupe des enfants non-nés, donc j'ai appris des choses qu'on pouvait toujours s'en occuper. Quoi. On a un lien physique avec eux, en fait, avec les enfants qu'on a conçus, qui ont délesté, en fait, des cellules staminales. Hein, dans notre corps, on a des cellules de tous nos enfants qu'on a conçus. Hein, c'est comme ça, c'est une réalité physique. C'est une découverte hein, par le professeur Mancuso. Enfin, c'est pas inventé, donc on a vraiment un lien physique avec nos enfants. Et ça, je veux dire, moi, ça m'a fait beaucoup. Même si on ne les verra jamais, bien sûr, nos enfants sur cette terre, je les reverrai là-haut. Mais on a ce lien physique avec eux. C'est spirituel, hein. On fait quelque chose pour eux. Parce que je veux dire, on y pense tout le temps. Enfin, on sait qu'ils sont là en quelque part, mais où, on ne sait pas. Hein,
Je suppose que vous posez la question, mais ces enfants, une fois qu'ils sont morts, ils vont où? Ils vont comment? Enfin, se déplacent-ils? Enfin, donc, après la mort, les enfants restent liés à leur famille. Et ils restent liés à ceux qui sont les plus capables de les accompagner, de les envelopper, de les adopter, de leur donner, d'avoir une intimité, une pas seulement fraternelle, paternelle, maternelle, surnaturelle, eucharistique, au sens puissant du mot. Ils restent là, ils restent avec eux, ils restent dans cette proximité. Voilà. Et ils sont dans le temps. leur vie n'est pas terminée. Au contraire, leur vie commence, si je puis dire, et ils vont avoir une vie lumineuse, dans une forme parfaite qui est leur innocence originelle. Et ils ont une vie aussi de gratitude. C'est une vie d'offrande de tout nous-mêmes et de tout ce qui peut être offert dans l'amour et dans la lumière. Ils ont une capacité au sacerdoce mystique qui est qu'on peut pas égaler. Bon, ils ont une qu'est-ce qu'ils deviennent? Eh ben, ils deviennent des âmes, des cœurs, des consciences, des êtres de lumière, des êtres d'espérance, en fait, de confiance totale, et des êtres qui ne cessent de grandir, de croître, de disponibilité. Ce sont des êtres qui sont en communion aussi avec le message angélique et le message de Dieu, et ils ont une capacité tout à fait extraordinaire d'aspirer, tout en étant entièrement plongé dans le Verbe de Dieu qui a fait qu'ils existent et qui les illumine encore. Et ce sont des êtres contemplatifs à l'état pur. Ce sont des êtres d'amour, d'aspiration. Ce sont des êtres qui ont un amour fou pour leur père, pour leur papa. Ce sont des êtres qui ont un amour fou pour leurs frères et leurs sœurs.
Je voudrais revenir sur un point.
Oui.
Tu parlais de les nourrir spirituellement. Peux-tu un peu expliquer ça?
En fait, pour qu'ils grandissent spirituellement, c'est par l'Eucharistie. Enfin, comme nous, ils appartiennent à Dieu, bien sûr. Hein. Ils sont revenus à Dieu plus prématurément que prévu, évidemment. Quoi. Ils n'ont pas eu de rôle sur Terre, ils n'ont pas eu de mission sur Terre. Alors Dieu, quelque part, Dieu qui est miséricorde et qui s'adapte à nous, leur a donné une mission, enfin, une mission spirituelle, parce qu'ils représentent tellement un poids d'amour important. Parce que sur cette terre, il n'y en a plus beaucoup de poids d'amour. Hein. Donc je pense qu'ils vont être là, ils vont avoir un rôle très important.
Il y a une unité à avoir avec eux, une solidarité intérieure à avoir avec eux, une nécessité de communion dans l'échange de l'accueil et du don de leurs âmes avec la nôtre, tout ce qu'ils reçoivent d'amour, de lumière et de grâce. Donc, qu'est-ce que nous avons à faire? Eh bien, c'est pas de l'ordre de la fabrication, mais c'est de l'ordre de l'amour. La fraternité humaine que nous avons avec eux a quelque chose de tellement puissant, et ils en ont tellement soif, que la chose que nous avons à réaliser, à actuer, c'est une communion totale avec eux.
Et donc on les aide par des messes et par nos prières. Hein. Puis, je veux dire, il y a quand même tellement ce lien physique qui reste que ça, avec, par ces cellules staminales. Hein. Donc ça, c'est comme un ascenseur pour nous. Enfin, pour nous, c'est, bah, je veux dire, moi ils m'ont amené où je suis là maintenant en soignant ce moine. Quoi. Sinon, je ne serais pas là où je suis. Puis moi, je pense à eux tous les jours, quoi, bien sûr. À chaque messe et dans mes moments de prière. Enfin, c'est vraiment une affaire de foi. Hein.
Alors, ce que je voulais rajouter par rapport à ces enfants que nous avons perdus, qui ne sont pas perdus en fait, hein, que nous avons gagnés au ciel, c'est que justement, ce sont des alliés. Ce sont des alliés au quotidien. C'est-à-dire que non seulement on sait qu'on va les retrouver, mais c'est qu'on peut les prier, on peut leur demander de nous aider, de nous guider, de nous conduire. On a notre ange gardien, bien sûr, qui nous guide et qui nous conduit, et on a aussi nos enfants. On va dire, tiens, Simon, par rapport à telle situation, on va te demander d'intercéder auprès du Père. Alors évidemment, vous imaginez les intercesseurs que ça fait de demander à son propre enfant d'aller intercéder auprès du Père pour, par exemple, un de vos enfants qui est bien vivant sur la terre. Donc ça, c'est un grand cadeau. C'est-à-dire qu'en fait, avec Dieu, tout est retourné en vie, tout est retourné en victoire. Et ça, c'est un point qui est très important. Parce que alors qu'on devrait avoir quelque chose qui nous écrase, qui nous crucifie, on a bien le mystère de la résurrection qui est là, donc il y a la croix, et elle est bien là, et au bout de cette croix, il y a la résurrection, et finalement la vie au quotidien avec nos enfants du ciel.
On sait très bien qu'on n'est pas des saints, qu'on n'est pas la Sainte Vierge, et qu'on n'est pas la Sainte Famille de Jésus, Marie-Joseph dans l'Anastase et dans la plénitude accomplie de la grâce. Alors, on sait que ceux qui savent faire mieux que nous vont nous aider, vont nous envelopper. Donc, on va consacrer ces enfants pour que l'Église devienne leur maman, pour que la paternité de Dieu dans le Christ Jésus notre Seigneur se déploie à l'intérieur d'eux de manière avec comme des fleuves d'eau vive, de lumière, que se mette en place en eux une communion avec le corps spirituel de résurrection dont ils sont les porteurs dès lors qu'ils sont appelés par leur nom.
Voilà, enfin, Seigneur est miséricorde, il fait tout, il transforme tout en miséricorde. Parce que je viens d'une famille qui est pas croyante, en fait. Hein, donc, on a fait partie du monde, la révolution sexuelle, fait, etc. Vous voyez, j'en passe. Donc les conséquences, ça a été des gestes comme ça, qui ont pu être rattrapés par Dieu, par le Seigneur. Hein. Et voilà, on peut toujours s'occuper de nos enfants.
La conception que Jésus a réalisé Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant d'amour, le Dieu Tout-Puissant qui, dans le beurre riche, a créé tout ce qui existe, le Dieu Tout-Puissant qui ne cherche qu'à être l'épousé et à communiquer toute la vie divine de Dieu. Il s'est inscrit dans cette vie embryonnaire avant la nativité de Noël. Et bien, ils sont en affinité avec cette incarnation. Ils sont en affinité, oui, avec cette incarnation, et ils sont pris par l'élan irrésistible du salut, pour le salut du monde. Et ils savent que la robe blanche de la rédemption et de la victoire dans la grâce de l'accomplissement des temps leur est réservée à eux. Ils sont les seuls à avoir une qualité telle de vie et de dignité tellement immense et profonde. Ils sont les seuls à qui Dieu a préparé, que Dieu a destiné à recevoir la grâce de l'accomplissement des temps, qui doit obtenir l'anéantissement de tout le mal qui se fait dans le monde. Ils le savent parce qu'ils l'ont vu eux-mêmes dans leur inscription dans le livre de la vie auquel ils ont acquiescé. Ils sont un oui complet, total. Ils sont une restauration, lorsqu'on rentre en communion avec eux, une restauration de notre liberté primordiale et une grâce surabondante en nous lorsqu'on vit ensemble avec eux l'échange de la lumière, de l'amour, de l'accueil, de la grâce et du don. Une restauration en nous d'une transfiguration de la vie universelle et du relèvement, une transformation vraiment dans le mariage spirituel de l'humanité qui est en nous.
Et donc, nous avons vu de nombreuses familles rentrer dans des guérisons physiques même. J'ai vu des personnes qui étaient malades physiquement. Et le simple fait de rentrer dans la démarche de guérison finalement, du baptême de désir, avoir des guérisons psychologiques, ça c'est très important, et physiques énormes, c'est très important aussi. Voilà, donc un message d'espérance pour tous les hommes et toutes les femmes qui ont des enfants au ciel, qui sont partis trop tôt, des enfants non nés, c'est de savoir qu'ils ne sont pas morts, qu'ils sont avec nous, que nous les retrouverons et que nous pouvons faire une vraie démarche de réconciliation pour vivre avec eux dès cette terre et continuer de vivre avec eux ensuite au ciel.